donc des données fiscales. Pour aller rapidement, on trouve des résultats sensiblement différents, puisqu'ici on a 3,5 millions d'hectares et 6,3% des aires métropolitaines, avec un accroissement de 23 000 hectares par an. Et puis le dernier qu'on a, c'est l'étude Théruti-Luca, qui est une étude plutôt... une étude plutôt scientifique, hein, une étude sur les différentes catégories d'occupation du sol, agricole, urbain, etc., et qui est réalisée annuellement et qui est fondée sur une étude des photographies aériennes. Et avec cette étude, on trouve 5,1 millions d'hectares, 9,3% du territoire, pourcent du territoire métropolitain, et un taux d'accroissement de 61 000 hectares par an. On voit là que pour évaluer la politique publique, on est dans un flou vraiment délicat. On pense qu'on est plutôt... on peut faire une moyenne entre ces différents résultats. Ça, c'est décompté du temps, hein, parce que c'est... Hein. On peut faire une moyenne entre ces différents résultats, mais on voit qu'on a quand même des écarts qui, pour ajuster une politique publique, ne sont pas évidents. Et nous, on a besoin de discuter, État, qui avons pris ces engagements de zéro net artificialisation, on a besoin de discuter avec les collectivités locales qui veulent ou pas étendre leur zone urbanisée, qui veulent construire des nouvelles zones d'activité. Et donc, on a un véritable problème. Et on est en cours de travail sur ce sujet avec des scientifiques, y compris pour savoir ce qu'on définit comme artificialisation des sols. Parce que si on veut une artificialisation des sols avec zéro net artificialisation, on veut aussi pouvoir désartificialiser et désimperméabiliser des sols. Et donc, le sujet... de savoir comment on compte quelle partie du sol, est-ce que quand on a un pavillon, on compte la partie du pavillon ou on compte la totalité de la parcelle, ce sont des questions que les scientifiques vont devoir se poser. Voilà. Donc en conclusion, rapidement, ce que nous pensons, c'est que la donnée n'est pas toujours facile à obtenir, que les sources sont très multiples et qu'on a vraiment intérêt à travailler avec les vrais producteurs de données. Et en troisième lieu, qu'on a intérêt à adapter la production de la donnée. Je veux revenir sur cette histoire d'observatoire des loyers. C'est le fait d'avoir une concertation sur le mode de production lui-même de la donnée qui permet de la faire accepter et de la rendre plus acceptable en matière de politique publique. Parce que pour mener une politique publique, il ne suffit pas d'avoir une donnée scientifique, il faut aussi qu'elle soit acceptée et qu'on puisse construire dessus un dialogue avec les partenaires locaux. Excusez-moi, j'étais un tout petit peu long.
Non, merci beaucoup, Monsieur Sapoval. I think it was like a very interesting presentation and inputs. I think like three very interesting cases that are really like illustrating like the importance of data. I'm sure there will be like many questions. I have a few already. I think that you highlighted like the issue of like the different levels of governance. Perhaps also will be very interesting to see the importance to have some baseline data, because like some of the programs you are referring to are like already like 20 years old. So I'm sure like the French experience from this perspective will be very interesting for many people. I'm now giving the floor to our next speaker, Mrs. Anna Mitrajeva from the Netherlands. And yes, thank you very much.
Dear ladies and gentlemen, it's really an honor talking today here. I am Anna Mitrajevna, as was already said. I'm a project leader, data on smart and sustainable city, and since recently, I'm also a project leader of Honest Algorithm in Artificial Intelligence at Statistics Netherlands. I think it's like here, right? Yeah. Okay, a little bit more about my organization, what I'm representing today. As a National Statistical Institute, together with 2,000